Tu lis quoi, toi? Vous lisez quoi, vous? Nous lisons quoi, nous?
La pluie, telle des larmes, mouille nos joues. On la fuit, on s'empresse de chercher un abri, et pourquoi pas ne rester sous l'ondée. L'averse passée, tout finit par sécher. Miroir. Tant d'émotions nous submergent que ça déborde. On s'y noie, on murmure quelque chose avec peine. On souffle tout bas la même chose. On se regarde. Quand on donne voix à ses sentiments, les yeux de l'autre brillent comme de petits miroirs au soleil après la pluie. Ces petits textes sont tirés d'un très 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 beau livre qui s'appelle « Rêverie » de Sandrine Cao, publié chez Grasset. Elle nous avait déjà offert un premier album qui s'appelait Rêverie, un peu dans la même collection. Et c'est un livre magnifique. Vous écoutez On lit quoi nous? C'est la 60e émission d'On lit quoi nous? Je suis aujourd'hui avec Madame Véro. Bonjour Madame Véro.
Bonjour Monsieur Simon.
Mais je suis aussi avec Méline. Bonjour Méline.
Bonsoir Simon.
Je suis évidemment aussi avec Philippe, mais il n'a pas de micro, donc il ne dit pas bonjour. C'est celui qui fait le son. On est hyper content de vous retrouver pour cette nouvelle session d'On lit quoi nous? Celle de mai, le beau mois de mai. On commence avec de très jolis mots, avec un très bel album. Hein, ce livre de Sandrine Cao, Rêverie, est absolument magnifique, parce que le texte, c'est plein de petits haïkus comme ça qui vont parsemer le livre. Et il y a une illustration qu'elle met avec ces deux petits personnages, qui sont deux petits animaux, deux petits chiens, qui comme des rêveries, en fait, vont vivre des petits moments, des moments, partager des moments d'émotion. Et c'est tout doux, un peu comme une émission dans l'Iquanou.
Mais oui.
Hein? Ah oui, c'est beau.
Plein d'émotions.
Voilà, on va passer un très bon moment. On va parler de littérature jeunesse, évidemment, comme d'habitude, de livres pour enfants, de livres pour les grands, de livres pour ados. Mais on commence, comme d'habitude, en musique. Et cette fois-ci, j'ai choisi de mettre en avant le festival national de la Mayenne.
Scène nationale.
Non, pas du tout. C'est le festival qui va débuter très bientôt, qui s'appelle Les Trois Éléphants, qui est un festival qui se passe à Laval depuis quelques années. Et on sait, c'est un festival qu'on adore et qui a une histoire. Hein. Il était avant à la Celle-et-Château, il est arrivé à Laval. Et c'est vrai que ça anime beaucoup la ville. Et on s'est arrêté un petit peu sur la programmation des choses qu'on aime bien, qu'on a hâte de voir. Évidemment, la grosse star, c'est Étienne Daho. Alors, on va commencer avec honneur à la grande star, un des auteurs cultes de la pop française, tout simplement, le parrain de la pop depuis les années 80. J'ai choisi un morceau un peu mythique, hein, c'est le morceau Boomerang avec Nico, qu'on va écouter tout de suite. Ça va être sur la scène le vendredi soir.
Des boums et des bangs, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé. Tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté. De ma mémoire que ma bringue et ton amour m'ont épuisé. Je sens des boums et des bandes agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À s'aimer comme des dingues,
comme de fous alliés. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter. Si comme un boomerang tu ne reviens pas me chercher. Peu à peu je me déglingue, victime de ta cruauté.
Je sens des boums et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À
t'aimer comme une dingue, prête pour toi âme d'amis.
Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures de cinglé que tu m'as fait endurer.
Je sens des bombes et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer.
Ma raison vacille et tangue, elle est prête à chavirer sous les coups de boomerang, de flashbacks enchaînés. Et si un jour je me flingue,
c'est à toi que je le devrais.
Ah, Madame Véro, vous étiez à fond. Vous étiez à fond.
Étienne,
Étienne, c'est tout.
Voilà. Si j'osais, je dirais, tiens-le bien.
Vous serez au concert ou pas?
Non, je l'ai été en décembre.
Ah oui. Moi aussi, je l'ai vu à Rennes il n'y a pas très longtemps. C'était la dernière date de sa tournée.
En décembre?
Non, c'était l'année précédente.
Ah, d'accord.
C'est vrai que c'était super. Hein. Franchement, il a la classe. Quoi.
Et les lumières sont magnifiques.
Ouais. Vous savez qu'elle est agile là?
64.
68.
Oh, 68.
Ouais, c'est depuis l'année dernière, en fait. Il a pris 4 ans.
Petit pépère.
Ouais. Oh. Mais franchement, sur scène, comme
ah,
ça,
il assure.
Il a trop la classe. Mm. Je suis d'accord. Et il vient de sortir donc, un nouvel album qui s'appelle Tirer la nuit sur les étoiles. Donc, si vous voulez le découvrir, ça sera le vendredi aux Trois Éléphants. Allez, on parle de littérature jeunesse. Non, pas que, tiens. C'est le moment de l'actualité.
Ah bah oui.
L'actualité.
Rature
pas que la jeunesse.
C'est
de mieux en mieux.
Pas que de la jeunesse, ben nous voilà bien.
Bah ouais. Bah ouais, parce que j'avais envie de faire une actualité pas que de la jeunesse. J'étais en train de garder un petit peu...
Non, mais si vous voulez changer plus,
tous les jingles
éléphants...
et tout ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Non, j'avais envie de parler d'un truc qui m'a un peu attristé comme ça. J'ai trouvé ça sur Internet il n'y a pas très longtemps. C'est la fin annoncée par France Inter de l'émission La Librairie Francophone.
Oui,
je ne sais pas si vous avez
entendu,
vu ça.
Et Philippe aussi a entendu, nous sommes désolés.
Et moi, je suis énervé.
Ah oui, énervé, oui. Et nous voulons des raisons, des explications.
C'est ça, exactement. Et donc là, aujourd'hui, à l'autre radio, nous allons donc demander à France Inter des explications.
Complètement.
Pourquoi arrêter une émission qui est à l'antenne depuis 19 ans, avec des pics à plus d'un million d'auditeurs, qui symbolise toute la francophonie, toute la défense de la langue française partout dans le monde.
Qui parle très mal de la littérature jeunesse. Non, je plaisante. Mais il ne demande qu'à apprendre,
c'était
Emmanuel
Kérad. C'était une émission qui était
elle est fabuleuse cette émission.
Qui était géniale. Franchement, je suis triste
et inquiète moi.
Et un peu énervé et un peu inquiet après l'épisode Monsieur Meurice, ça fait un peu beaucoup, j'ai
ça
envie de dire.
Hein, ouais.
Voilà. Ils accumulent.
C'était notre coup de gueule, voilà. Bon, on va voir, on va rester vigilant.
Bon,
deuxième petite actualité.
Bah oui.
Ouais.
Oui.
Vous savez que J.K. Rowling s'est pas du tout calmée.
Elle a recommencé.
Elle continue. Tweet après tweet.
Mais qu'est-ce qu'elle fait?
Voilà. Donc elle continue à publier des tweets transphobes et compagnie. Voilà. Alors c'est vraiment dommage pour elle, hein, parce qu'elle perd public après public.
Oui,
là.
Oui.
Et on sent bien que toute la nouvelle génération, elle est beaucoup moins...
Bien sûr.
Enfin, moi, je l'entendais l'autre fois à la librairie.
Moins laissé passer de choses.
Voilà. Oui. Deux copines qui parlaient, on disait tout. Ah, tu lis Harry Potter? Moi, je veux plus du tout y toucher.
Boycott.
Voilà. Donc, voilà. Bon, pour nous rassurer un peu, Daniel Radcliffe, vous savez, c'est celui qui incarne Harry Potter à l'écran. Donc, lui a réitérer son soutien à la communauté LGBT+. C'est-à-dire que lui, il a dit, je ne soutiens absolument pas J.K. Rowling. Au contraire, je m'oppose à ses affirmations et je porte tout mon soutien aux trans, à toute la communauté queer. Quoi. Donc voilà, c'était juste pour,
bah, c'est bien de le
pour
dire,
nous rassurer. C'est-à-dire qu'on peut regarder les films, mais...
Entre France Inter et Duke Caroline, franchement...
Ouais, c'était pas... Ouais. Ouais, j'étais énervé. Ouais. Je suis passé en plus d'un article à l'autre,
non,
et ça m'a un peu énervé.
Il
voilà.
y a de quoi.
Donc on va se remettre dans le bon sens de la marche, avec des choses ravissantes, des choses magnifiques. Et qu'est-ce qui commence? Eh ben, je crois que c'est Méline.
Et c'est moi qui commence.
Oui.
Allez.
Un petit livre tout doux. Pour les tout-petits, signé Gwendoline Resson et Ilem Abdeljelil, qui s'étaient déjà alliés pour le livre « C'est beaucoup de soucis d'élever un doudou
». Mais dis donc, vous ne l'auriez pas déjà présenté, celui-là ?
Et si ! Et si, j'avais déjà présenté cet album qui était pour les plus grands. Et donc là, il est vraiment adressé aux tout-petits. Ça peut être presque un livre de naissance, en fait, je trouve.
Complètement.
À destination des parents et des enfants. Donc cette fois, notre duo donc, met en scène Anita, qui est un petit enfant, qui ressemble à un petit faon ou un petit hérisson, je ne sais pas trop, enfin un petit animal en tous les cas. Et au fil des pages, on a ce rythme de la nature qui dit bonjour à Anita. Donc par exemple, ça commence avec bonjour Anita, je suis le soleil, quand tu auras froid, je te réchaufferai. Et tout le long, c'est comme ça, c'est rythmé comme un petit poème. Et c'est très beau, c'est très doux. Évidemment, les dessins sont tout pastel, tout... tout en douceur, tout tendre. En fait, oui, c'est ça. C'est vraiment le maître mot, la douceur de cet album. Et c'est merveilleux pour l'éveil, en fait, aussi, je trouve. On a toute la nature, les oiseaux, les sensations, la nuit, le jour. Et on a aussi, à la fin, cette belle page sur la famille, qui est toute différente. Donc, ça permet... d'avoir plusieurs représentations de famille. Voilà, donc moi je trouve que ce petit livre confirme que Gwendoline Resson et Ilem Abdeljelil sont un duo de choc. Voilà.
Bah voilà. Voilà qui est dit.
Voilà
on leur dira. On va leur dire.
Très important.
Et Gwendoline et Ilem, vous êtes un duo de choc. Et un solo de choc, on en a un aussi, Madame Béraud?
Un solo de Ghislaine Herbera chez Memo. Qui s'appelle Moi, Moi, Moi. Et ce livre m'a fait penser à... ça fait partie de mon top 20, George Bourne. Au livre de... Ben voilà, si j'ouvrais mon téléphone, ça irait mieux. Kitty Crosser, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui s'appelle, un petit livre qui s'appelle Et alors, où les doudous à chaque page se demandent quand est-ce que le bébé va venir dormir. Et là, c'est Moi, Moi, Moi. Là, c'est les doudous qui parlent encore, aussi, et qui... C'est bientôt l'heure. Youpi, c'est pas trop tôt, ce soir c'est mon tour. Non, c'est le mien, c'est moi le chouchou. Non, c'est moi, chut, je l'entends. Et là, c'est le petit garçon en pyjama qui va ouvrir son coffre et il y a ses doudous à l'intérieur. Et ses doudous sont vraiment, vraiment adorables, craquants. Je me demande d'ailleurs comment il fait pour choisir cet enfant. Parce que c'est vraiment, vraiment très, très difficile. Les illustrations sont d'une douceur et en même temps... avec des couleurs vives, très joyeuses, très, très enthousiastes. C'est vraiment le bonheur d'aller se coucher, quoi, et le bonheur de fêter le sommeil, on va dire. Et la surpuissance de l'enfant aussi, qui est très, très importante. C'est lui qui va choisir le doudou. Alors évidemment, je peux vous dire la fin, parce qu'il va dormir avec tous ses doudous. Il ne va pas réussir à choisir. Oui, le suspense
est
insoutenable. Et les personnages sont vraiment craquants. L'atmosphère est drôle. Elle est chaude. C'est vraiment propice à aller se coucher. On n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher avec tous ses doudous. C'est trop mignon. Ce petit bonhomme vert,
oh,
comme
c'est
ça.
Vrai c'est vrai que c'est très, très beau.
C'est ça, en fond, on est... Moi, j'ai
c'est marrant parce que Ghislaine Herbera, elle est capable d'avoir un dessin qui est un peu, beaucoup plus inquiétant.
Avec la femme à barbe ?
Ouais.
Non, parce que
et là, on est...
Ma mère est une femme à barbe, oui.
Et là, tout au contraire, on est vraiment dans une...
Ah ouais, là, vraiment dans une...
Bienveillance. Un bien-être.
Voilà, un bien-être. Très, très fort et c'est vraiment un bonheur. Ça me rappelle aussi son univers dans la forêt aussi. Où, c'est peut-être un petit peu plus inquiétant, mais c'est pareil, on se fond dedans, on est fasciné par les couleurs.
Bah super, voilà. On rappelle les références.
Moi, 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 de Ghislaine Herbera et on est chez Memo.
Un très beau livre cartonné. Et juste avant que vous vous endormissiez, puisque j'ai bien compris que vous vouliez prendre tous les doudous et partir faire une sieste, je crois que vous aviez un deuxième coup de cœur pour les petits.
Oui. Donc voilà, L'imagier pas si sage de Richard Marnier et d'Aude Morel. J'adore le principe.
On est chez Frimousse.
Le principe, c'est double page, deux photos. Une photo de bottes d'enfant rouge, belle photo, une belle paire de bottes et à droite, une banane bien mûre.
On n'a presque pas
besoin de tourner la page. On sent que ça va mal finir pour la banane. Pour les bottes aussi, elles sont toutes sales. Et puis, il va y avoir ce feutre bleu ciel qui donne vachement envie d'aller crayonner. Et un t-shirt bien repassé, tout net. Non, je ne veux pas voir ça, Quelle horreur. Et là, il y en a partout. Ça a été gribouillé. Alors là, il ne faut pas exagérer. Et ça va aller. On va dérouler le papier toilette infiniment. On va mettre les papiers de bonbons qu'on aura tout mangé. Tous ont été mangés. Ils sont partout. C'est pareil. Beaucoup, beaucoup de couleurs dans cette imagier. Des couleurs tendres. Il y a des photos. Je pense qu'il y a des photos. Ou alors c'est carrément...
Non, c'est du dessin.
C'est incroyable. Là, on dirait vraiment presque de la photo. Et après, il y a du dessin, ouais. Enfin, moi, je voyais plus le dessin, mais c'est la simple aiguille et le ballon rouge. Voilà, qu'est-ce qui se passe? On s'en doute un peu. Il y en a partout. Le pot de confiture, enfin voilà. C'est une invitation joyeuse à la bêtise. À faire des bêtises, hein, pas la bêtise humaine, hein, j'entends. À faire des bêtises, à faire des catastrophes autour de soi pour donner un petit peu de vie dans ce monde qui somnole.
Mais oui, bien sûr, c'est important. Merci Véro, c'est très très important. Ben moi aussi j'ai un coup de cœur pour les tout-petits, qui n'est pas que pour les tout-petits d'ailleurs, comme beaucoup de livres qu'on présente évidemment. Quand on dit que c'est pour les tout-petits, c'est à partir du tout-petit âge. Mais les plus grands et les plus vieux, ils peuvent s'accaparer ces livres qu'on présente. Eh bien, ce livre, exactement, il fait ça. Il s'appelle « Viens », c'est le dernier livre de Ramona Badescu, publié aux grandes personnes. Et moi, j'adore Ramona Badescu. Je trouve son travail, il est absolument exceptionnel. À la fois dans le texte, souvent, elle écrit pour les autres. Et puis, de temps en temps, elle fait un livre complet. Elle avait déjà fait, chez le même éditeur, un livre qui s'appelait « Tiens », qui était un livre de photographie, où il y avait un petit peu de texte, et comme ça. Et bien là, elle revient avec un deuxième ouvrage, exactement dans le même principe, qui s'appelle « Viens ». Et ce livre, en fait, c'est un livre qu'elle a créé après une résidence de création à Manosque, où elle a photographié des bébés et leurs familles, dans des situations, en fait, diverses, de leur arrivée au monde, enfin, vraiment de la naissance jusqu'à leur 1 an, et elle les a suivis comme ça... au gré du quotidien, au gré des saisons aussi, enfin pendant toute l'année de leur première année de vie. Et en même temps, elle a arpenté en fait les alentours de Manosque. Donc elle a été à pied par tous les temps, par toutes les saisons également, photographier des éléments. Ça peut être des plantes, des pierres, des insectes, des animaux, les différentes saisons, la pluie, la neige, le soleil, les bourgeons, les arbres... Et tout ça, en fait, ça donne vie. Tout ça, elle l'a mis dans un livre. Donc, ce sont ces photographies qu'on va découvrir. Donc, avec des vrais moments de la petite enfance qui sont présentés sur des moments de vie, sur des tout ce qui va constituer la première année. Et puis, à côté de ça, des moments plus poétiques. Où c'est une invitation à se promener, à découvrir ce qu'il y a autour de nous, à sentir des choses, à ressentir des choses, à s'émouvoir d'un paysage, d'une odeur. Ce livre vient, c'est ça, c'est une balade littéraire, c'est une balade photographique. Et c'est absolument génial parce que c'est un livre où il y a des entrées dans tous les sens. On peut en lire juste une double page, on peut le feuilleter comme ça, on peut lire le texte, on peut ne pas le lire. C'est vraiment un livre avec plein d'entrées. Ça peut être aussi un livre transgénérationnel puisque l'enfant qui va grandir va pouvoir se retrouver dans ces images, dans les images de sa petite enfance, et en même temps qu'il va voir des animaux, voir des plantes qu'il va reconnaître, qu'il va pouvoir nommer, c'est comme un imagier. Voilà, c'est vraiment un ouvrage qui ouvre au monde et c'est pour ça qu'il s'adresse à tous les âges. C'est un vrai beau coup de cœur et franchement je trouve qu'elle a un travail très fin. Aussi bien quand elle écrit pour les autres, moi je trouve qu'elle avait toujours un travail poétique fort, mais quand elle photographie aussi, elle a un regard très très fort. Donc voilà, vous avez compris, je suis un petit peu fan.
Ça
s'appelle Viens de Ramona Badescu et c'est publié aux éditions des Grandes Personnes. Allez, on va parler un petit peu d'album maintenant. Ah bah c'est moi, d'accord, oui. Je vais continuer, bah oui, parce que Véro, vous allez encore nous faire un petit vrac, j'ai l'impression, hein. Un grand vrac. Alors avant qu'on parte pour le vrac de Véro, vous savez, c'est toujours un événement, moi je voulais souligner un album qui m'a vraiment marqué, qui m'a beaucoup plu. C'est un album qui s'appelle Une aventure au royaume de porcelaine, qui est publié par un éditeur qu'on aime bien, qui s'appelle Aubryard, dont on a déjà présenté plusieurs livres à cette antenne. C'est un petit éditeur du nord de la France. Et là, il a édité un livre qui nous vient de Tchéquie, je crois, qui s'appelle Une aventure au royaume de porcelaine. C'est écrit et dessiné par Katerina Ilnerova. Et comme vous pouvez le voir... Bah non, vous pouvez pas le voir parce que c'était à la radio. Par contre, Méline et Véro, vous pouvez le voir. Et c'est un livre sans texte. Et ce livre sans texte, en fait, il va nous raconter une histoire, une fabuleuse aventure, l'histoire d'un petit personnage comme ça qui est sur au début de l'histoire et sur la mer en train de pêcher, d'être tranquille. Et tout à coup, son chapeau s'envole. Un bout de nuage, hop, lui pique son chapeau et l'emmène en fait dans une grande expédition à travers la porcelaine. Et oui, puisqu'en fait le personnage est un personnage qui était dessiné sur un vase. Et donc ce personnage, pour pouvoir retrouver son chapeau, qui, le petit malin, s'échappe et va de porcelaine en porcelaine, donc d'une assiette sur un plateau, sur un... Eh bien le personnage va le suivre et on va suivre toute l'aventure comme ça en passant d'un vase à l'autre, d'une assiette à l'autre. Et il va évidemment faire des rencontres parce que par exemple il rencontre un vase chinois, ce vase chinois il y a un gros dragon, donc bah, il va devoir s'échapper du gros dragon ou en tout cas trouver un moyen de s'en sortir. Il y a aussi une référence à cet art dont j'ai oublié le nom, cet art japonais, vous savez, où on casse un vase et on le répare d'une certaine manière. Voilà, bon. On se redira toujours, mais voilà. En tout cas, c'est un livre très original. C'est un livre magnifique qui est un livre silencieux. J'aime bien ce terme de silencieux et pas sans texte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un livre avec une vraie narration qui se passe par l'image, juste qu'il est silencieux. Je trouve ça trop beau.
C'est Kintsugi ?
Oui, c'est ça.
Kintsugi.
Alors, c'est pas...
Bon, merci Google. Hein,
voilà, il y a des petites références. Hein. Et Katerina Ilnerova, pour ce livre-là, en fait, elle a gagné plusieurs prix, dont le livre du Silent Book Contest. Donc, c'est le meilleur livre silencieux. Voilà, en 2022. Cette femme, je crois que maintenant, elle doit le vivre en Italie, je crois. Ou en tout cas... Elle continue son travail un peu partout dans le monde. En tout cas, c'est une très belle trouvaille encore que nous...
Et c'est intéressant leur travail de rechercher un petit peu.
Exactement. Souvenez, ils avaient publié L'Ascenseur d'un auteur argentin. Oui. Enfin, ils vont chercher des auteurs qui ne sont pas des traductions qu'on a l'habitude d'avoir en France. Oui. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et la qualité, c'est un grand livre carré aussi, hein, qui fait presque 25 cm sur 25 cm. Enfin, c'est voilà, un très bel ouvrage encore à découvrir de Katerina Ilnerova. Ça s'appelle Une aventure au royaume de porcelaine. Et là, on y est, c'est l'heure du vrac de Véro. Ou bien c'est Véro en vrac.
Nouveau jingle.
Toujours. Toujours. Vous aurez toujours un nouveau jingle, Véro. Bien.
La sagesse de cheval de Ruth Doyle et d'Alexandra Finkeldey chez Grunt. Donc moi, j'ai été séduite par ce cheval qu'on va suivre au long de ces déambulations tranquilles à travers la colline. Il va rencontrer des lapins qui ont des soucis et lui aura toujours un mot de sagesse.
C'est le philosophe un peu, non ?
Il est un peu philosophe, oui. Et j'aime beaucoup les chevaux. Là, ce cheval s'apparente un peu à un percheron, je dirais, enfin un cheval de trait. Donc il est massif, il est magnifique. Il tient presque toute la page de temps en temps et il continue inlassablement à rassurer son entourage, à avancer dans sa vie tranquillement. On a envie d'être sur son dos ou d'être à côté de lui et qu'il nous accompagne pour notre vie aussi. C'est une véritable merveille, magnifique.
Ça s'appelle
La sagesse de cheval, Russ Doyle, Ruth Doyle, Alexandra Finkeldey, Grunt. On est chez Grunt.
Merci.
Pascal, surf, le surf avec le, voilà. Pascal Moisset, Yves Vialard, dont c'est le premier album, j'ai cherché, enfin la première illustration, aux éditions courtes et longues. Et là, c'est un grand... Je ne sais pas si vous, Méline ou M. Simon, vous avez des souvenirs d'enfance quand on se réveille le matin, qui fait très très beau. Et alors, en plus, quand il y a la mer pas loin, alors là, ça c'est extraordinaire. Mais on a l'impression que la vie nous appartient, elle n'a pas de fin. Que toute la journée ne va jamais se finir, qu'on va pouvoir changer le monde en entier. Enfin, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. C'est une sensation de liberté dingue. Et ce livre nous offre cette sensation de liberté incroyable. Cette jeune fille... petite fille qui est une surfeuse, qui dort près de l'océan dans sa maison et qui se réveille un matin et qui sent l'odeur de la mer, qui sent le rythme, le bruit de la mer et qui s'interroge sur les vagues. Comment vont être les vagues? Comment va être l'océan? Et c'est, ça la remplit entièrement, ça la happe aussi, ça la guide et elle va, c'est tout son chemin vers la mer, à travers la forêt, pour qu'elle aille rencontrer les vagues et voir comment va être sa journée de surf. C'est sublime, c'est magnifique. Les illustrations, on en a plein les yeux. Et le texte de Pascal Moisset, que j'avais déjà découvert chez Voce Verso, est vraiment aussi dans cette attente, dans cette ode à l'enfance, dans cette ode aux sensations. C'est magnifique, magnifique.
Ça a l'air en tout cas.
Voilà.
Moi, ça me donne envie.
Surf, surf, surf.
Ça sent un peu les vacances, ça, non?
Oui.
Quand même. Hein, il y a un petit odeur quand même de vacances.
Ah oui, d'embrun. L'étrange allergie de Bernadette. Alors, je l'ai gardé, celui-là, je l'ai choisi aussi. Je trouve intéressant parce que, bon, on a souvent vu des personnages qui n'aimaient pas les enfants dans pas mal de livres et tout. Enfin bon, c'est Émilie Chazeran et Marie Légima. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, je pense. Marie Légima. On est chez L'Élan Vert. Cette Bernadette, elle a une vraie allergie aux enfants. Mais alors, c'est terrible parce qu'elle a des boutons, elle tombe malade, elle vomit. Enfin, la totale, dès qu'elle... Elle essaye de fuir un peu partout, mais à chaque fois, il y a des enfants pas très loin. Enfin, bon. Et ce que je trouve intéressant, je ne vais pas dire la fin, mais ça ne se résout pas. Et je trouve ça très intéressant que ça ne se résolve pas. Elle trouve une solution pour vivre sa vie aussi. Et j'ai trouvé vraiment ce propos... alors, c'est très drôle, le reste... Enfin, tout le livre est très drôle.
C'est de Émilie Chazeran.
Voilà.
La fin un peu décalé.
La fin aussi est très drôle, mais elle n'est pas attendue. Et je trouve que c'est... J'aime beaucoup.
Ça moi, fait du bien un peu.
Ouais, quand on me surprend comme ça. Un petit ovni. Moi, la fan, entre guillemets, mais comme énormément de gens de Paul Ponty, Claude Ponty, pardon.
Ce nouveau Paul Ponty, que personne ne connaît, là, pour
mais
le
non,
coup.
Mais non, mais c'est son fils. Ah, allez. Non, il n'a qu'une fille. Charlotte Lemaire, Fourmillon, et on est chez Biscotto. Et Biscotto, comme d'habitude, nous propose des choses souvent au niveau...
J'adore Charlotte Lemaire.
Au niveau... Oui, j'ai été voir ce qu'elle faisait aussi, d'autres. Et c'est vrai que j'ai aimé ses livres, moi j'ai... Vraiment. Et donc, ce Fourmillon, c'est un tout petit bonhomme. Un tout petit bonhomme que Pascal Lutin rencontre dans son jardin un matin. Et ce petit bonhomme, il a une ambition, c'est d'aller voir la comète. On a annoncé aux infos que la comète allait arriver. Et donc, Pascal Lutin va l'aider et il va utiliser des radimenses de son jardin pour essayer d'aller sur la couche de nuages, alors ça, je ne sais plus comment il appelle ça, la couche de nuages, ouais, pour aller voir la comète. Et là, évidemment, un univers avec, vous avez entendu, des mots valise recréée, enfin voilà, comme fait Claude Ponty, enfin sauf que c'est... Pascal Lemaire qui le fait là à sa façon.
Charlotte,
pardon. Oh, je ne vais pas y arriver. Et un univers foisonnant aussi de personnages assez délirants, atypiques, qui justement tous les éléments sont sollicités aussi et tout. Et juste aussi un travail entre l'immense et le tout petit. Et ça, on est toujours basculé entre les deux. À un moment, Pascal Lutin prend Fourmillon pour le mettre comme un de ses boutons qui va s'installer dans son gilet, voilà, comme ça. Et on a des situations complètement délirantes. Et en même temps, ça tient vraiment la route. C'est une très, très belle histoire. Donc voilà, je vous conseille Fourmillon, Charlotte, excusez-moi Pascal, Le Maire et chez Biscotto.
Son premier album, c'était avec un tigre et un chasseur.
Oui,
c'était absolument génial.
Avec la longue vue, non? Oui, c'est ça. Petit poème pour toi et moi, chez Gallimard Jeunesse, de Milia Pragman. Elle est néerlandaise. Je voulais juste faire remarquer la qualité de la traduction, parce que vraiment, c'est des petits poèmes du quotidien. Je vous en lis juste un tout petit. Là, c'est sûr. Et puis, alors, avec des illustrations extraordinaires. Hein. Vraiment, là, c'est un papa pingouin avec le petit pingouin sur le ventre. Papa respire, ça fait des vagues, mon pacifique à moi. Quand je m'endors sur son ventre, je monte et je descends doucement. Je grandis et grandis avec lui, immense comme l'océan. On revient un petit clin d'œil à Surf, Surf, Surf. Mais voilà, c'est plein de petits poèmes à lire comme ça. Juste se faire plaisir à voix haute et tout, avec des illustrations vraiment adorables. Et la fête des bêtes à cornes. Alors moi, ça m'a évoqué un petit peu Loup Gris, puisque Gilles Bizouerne est l'auteur de la fête des bêtes à cornes et de Loup Gris. Et Thierry Mann, là, en illustration. Et c'est vraiment très, très drôle, puisque c'est Frère Chien et Frère Chat qui ont décidé d'aller à la fête, puisqu'ils voient un taureau, ils voient un escargot, ils voient ça se diriger vers une fête, mais on les arrête parce qu'ils n'ont pas de cornes, et c'est la fête des bêtes à cornes. Alors ils vont user de stratagèmes pas possibles pour, enfin de faire une corne quoi, tout simplement, pour pouvoir aller faire la fête. C'est très très bien, très drôle. Didier Jeunesse, hein, toujours ce talent pour créer des livres à raconter, à conter, qui sont magnifiques, qui sont drôles, qui sont accessibles à tous. C'est une illustration très péchue et très drôle aussi.
C'est l'avantage effectivement de proposer aux conteurs, c'était leur grande idée de demander aux conteurs d'écrire des histoires.
Tout à fait.
Ça les pose en histoire et ça marche toujours. Quoi. C'est vrai que c'est l'avantage avec cette édition-là. Eh bien, merci Véro, quel beau vrac.
Très beau vrac.
Non, c'était un très beau vrac. Hein. Moi, je pense que c'est un des plus beaux vracs que vous avez fait.
Attendez le mois prochain.
Il nous tarde. Eh bien, en attendant, on va parler d'un coup de cœur. Oh. On va lire un coup de cœur.
Oh yeah.
S'appelle Le garçon et le faon. On reste chez Didier Jeunesse. C'est un livre de Louise Gregg et illustré par Julia Moscardo et traduit de l'anglais par Rosalind Elland Goldsmith. Le garçon et le faon. Il est un garçon qui respire la nature et qui, de la pinède, comprend chaque murmure, qui, du moindre coup d'aile, perçoit le brissement et les battements de cœur transportés par le vent. Nombreuses sont les queues que l'enfant a soignées et les plumages qu'il a pansés. Il a choyé, nourri, de toutes petites bêtes, à l'abri d'une maison confortable et douillette, un refuge parfait pour braver les tempêtes. Ce garçon sait qu'un petit tas de feuilles mouchetées peut être un animal tremblant dans la lueur de l'aube, seul, sans sa mère. Alors le garçon chuchote très bas, « Je t'emmène chez moi. » Les voici tous les deux dans le salon douillet, où la maman sourit mais prévient aussi. Soigne-la le temps qu'elle soit forte, bien sûr, mais la place d'un faon est dans la nature. Les bêtes sauvages ont besoin de liberté pour pouvoir galoper, voltiger et nager. Le garçon hoche la tête et un nom lui vient. Alba. Alba dort. Alba se dresse, s'arc-boute. Le garçon ne la quitte jamais. Puis un jour, sur ses pattes fines comme des tiges de rose, Alba s'élance. Par monts et par vaux, ils bondissent et courent, ensemble, toujours. La mère attentive voit le lien qui grandit entre le garçon et le faon. Mais elle sait, Alba sera forte bientôt. C'est l'été, les jours sont longs, l'herbe et les feuilles se gorgent de vert. La robe d'Alba s'éclaire au soleil. Ses yeux noirs scintillent tels des ruisseaux d'encens. Sous les arbres, côte à côte, deux ombres se mêlent. Un garçon et un enfant. Puis arrivent les mots qui mettent fin à la joie. Alba doit nous quitter. Elle est forte à présent. Et c'est dans la nature qu'est la place d'enfant. Les bêtes sauvages ont besoin de liberté pour pouvoir galoper, voltiger et nager. Le garçon reste assis comme la lune, solitaire. Les hauts pins se balancent, les queues de loup prospèrent, la cascade fredonne et la grive babille. Mais sans Alba, plus rien n'est pareil. Le jour se voile tandis que frémit l'air. Un nuage tremble, charriant le tonnerre. Le garçon lève les yeux vers le ciel fébrile. « Alba, où es-tu » crie-t-il. Il doit la trouver car il sait parfaitement qu'un orage n'a que faire d'un mignon petit faon. Mais toutes les empreintes sous la pluie sont les mêmes. Il se prend les pieds dans l'herbe, le lichen, trébuche sur les racines et la mousse touffue. Et voilà que bientôt le garçon est perdu. « À l'aide !» La peur inonde sa voix. « À l'aide !» Qui entend son appel. Il est un faon qui respire la nature et qui de la pinède apprend chaque murmure, qui perçoit le battement d'ailes détrempées et les cris d'un garçon dans l'orage déchaîné. Il est un faon fort et sauvage qui bondit d'arbres couchés en pierres glissantes et qui trouve un garçon seul, apeuré. Ils se serrent l'un contre l'autre, deux formes mêlées, un garçon et un faon. Voilà que s'éloignent les nuages furibonds. L'air maussade se dissipe. Le soleil jaune éclatant fait son apparition. Alba et le garçon s'élancent. Ils traversent la forêt, harmonieuse à nouveau, jusqu'à la vallée, la douillette maison, où les garçons crient « Maman, Alba m'a sauvé de l'orage !» Et le cœur inquiet de la mère se réchauffe. Le garçon sait à présent que son faon est fort. À ses douces oreilles, il susurre « Pars, Alba, car la place d'un faon est dans la nature. » Il est un garçon, il est un faon, il respire la nature. De la pinède voisine, ils comprennent les murmures. Du moindre coup d'aile, ils perçoivent le bruissement. Et pour toujours, oui, toujours, les battements de cœur, l'un de l'autre, portés par le vent. C'était donc la lecture du Garçon et du Faon, un texte de Louise Gregg, illustré par Julia Moscardo. L'illustration de Julia Moscardo est très très beau. C'est une jeune femme exilée en Angleterre qui illustre vraiment très bien. Le tout est publié chez Didi Jeunesse. Et puis se remettre un peu de tout ça. Comme d'habitude, on va écouter une petite musique. Un autre artiste qui sera présent aux Trois Éléphants, enfin une autre artiste, elle s'appelle Eloi. Vous allez voir, elle fait une espèce de mix entre l'électro, du rock alternatif. Elle est assez engagée, elle a des paroles assez féministes, un peu punk. Voilà, son premier album s'appelle Dernier Orage et elle sera donc aux Trois Éléphants à découvrir. Voilà, c'était donc l'artiste Eloi que vous pourrez découvrir aux Trois Éléphants. Il y en a plein à découvrir, hein. On n'a évidemment pas le temps de tout vous parler de tous les artistes, mais il y aura en tête d'affiche les SDM, les Luther, les Dali, donc ça c'est tous les rappeurs, mais Yamé évidemment, hein, qui est...
Je le fais hyper mal.
Il y aura de l'électro un peu avec Creed, avec, avec plein d'autres groupes. Il y a Isaac Delusion aussi, Maisy, Johan, Josh Crack, Malo, Solane. J'en garde un sous le cabochet, ça va être super aussi. Et puis un qu'on va découvrir encore tout à l'heure. Enfin, ça a été encore un beau festival. Et puis tous les festivals mayonnais sont super. Hein. Il y a aussi maintenant c'est à Saint-Pois.
Les Mouillotins.
Les Mouillotins qui arrivent.
Ah oui, c'est à Saint-Pois. Ouais.
Avec une très belle programmation. Et puis évidemment, les Foins de la Rue qui débutent l'été, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à aller dans les festivals.
Et l'autre radio est partout, j'imagine.
Et l'autre radio doit être bien présent, tout à fait. Ouais. Allez, on passe maintenant un petit peu au plus grand. Et puis, c'est vous, Madame Véro, qui commencez avec un petit documentaire. C'est vrai qu'on n'en présente pas beaucoup.
Eh bien oui, mais on en présentera de plus en plus, je pense.
Merci, Véro. C'est très gentil à vous.
Le cerveau, pas bête, pour les 7 à 107 ans. Les textes sont de Albert Moukébert et Raphaël Martin. Albert Moukébert, il a un podcast sur France Culture que j'ai été écouter, un podcast scientifique qui est vraiment très intéressant. Et les dessins sont très importants parce qu'ils sont vraiment, accompagnent vraiment, vraiment le texte. C'est Pascal Lemaître. Et on est chez Bayard. Donc c'est un documentaire très complet sur le cerveau et ses fonctionnements multiples. Et malgré la complexité du sujet, les auteurs réussissent à nous apprendre énormément de choses, avec un système de double page, avec des petits paragraphes très concis et très précis, très faciles à lire, et qui nous apportent une foule d'informations, avec une question à chaque fois. Qu'est-ce qui transmet la douleur? Les émotions, qu'est-ce que c'est? Filles, garçons, est-ce que nos cerveaux sont les mêmes? Quand on est amoureux, est-ce que les cerveaux sont amoureux entre eux? Comment le cerveau nous fait-il faire des mouvements? Quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? Dans le cerveau, que reste-t-il à découvrir? Alors, c'est juste quelques titres que j'ai mis, mais il y en a beaucoup d'autres. Et au début du livre, il y a un petit lexique qui permet de se repérer. À la fin aussi, on s'amuse avec le cerveau, avec des illusions d'optique, des jeux aussi, avec notre cerveau, à voir comment le cerveau peut nous induire en erreur ou encore est capable de décrypter des formes qui ne sont pas visibles. Tous ces textes documentaires sont accompagnés donc d'illustrations, comme je vous le disais, dynamiques et très rigolotes. Très explicites aussi, qui permettent de comprendre ces paragraphes denses. Et ça vient compléter parfaitement les propos scientifiques. Voilà ce que je viens de dire. Je me répète bêtement. Mais j'ai adoré vraiment le lire. J'ai appris plein de choses. C'est un documentaire peut-être que je m'achèterai aussi parce que c'est une base. C'est vraiment une base très simple qui m'a rappelé certains cours de physio, d'ailleurs. Et donc, je suis adulte, à peu près, je crois. Évidemment, pour des jeunes à partir de 9-10 ans et puis jusqu'à la fin. Mais jusqu'à la fin pour voir quand le cerveau meurt.
Ils disent de 7 à 107 ans.
De 7 à 107 ans, ils ont
donc, je crois que vous êtes dedans.
Ouais, complètement, ouais. Ouais, ça va là.
C'est bon. Non, elle est super cette collection là.
Alors oui, c'est pas bête, elle s'appelle. Oui, j'ai été voir, je veux tout.
Il y en a pas mal. Hein,
sur le numérique, il y a plein de choses.
Il y a pas mal de sujets scientifiques, mais pas que. Il y a aussi d'autres.
Oui, il y a de la philo.
Ouais, qui sont vraiment intéressants.
Non, c'est vraiment des documentaires comme je les aime, quoi, qui me font sentir un peu moins bête.
Bah, ouais, ça sert à ça. En même temps.
Voilà. Ouais.
C'est Donc c'est plutôt bien fait.
Ça marche.
Eh bien, tant mieux. On va passer au roman, peut-être, avec des romans jeunesse. Oui. Méline, vous avez un petit coup de cœur, je crois.
Ah oui, j'ai un petit coup de cœur. Une aventure complètement folle à lire à partir de 8 ans. La folle évasion de Sandrine Bonini est illustrée par Merwan Chaban au Seuil, dans la collection Le Grand Bain.
Oh, quelle est bien cette collection.
Elle est jetée dans le grand bain de la lecture. Tessa est fille unique. Et elle aimerait bien que ses parents la lâchent un peu. Dans un décor de vie modèle, la jeune fille, elle rêve en fait d'aventure et surtout d'indépendance. Et un matin, après l'ultime bisou de bonne journée de l'autre côté du trottoir du collège, sa mère fait tomber un mystérieux papier sur lequel est inscrit la folle évasion. Donc un beau papier, aux écritures dorées, ça fait très luxueux. Et alors qu'elle inspecte le papier, il y a le nonchalant Matteo qui vient mettre son nez dans ses affaires et va prendre part à cette mystérieuse aventure qui est celle de trouver ce que c'est que la folle évasion et qu'est-ce que c'est que ce carton d'invitation un peu spécial. Voilà, c'est drôle, c'est coloré, c'est pop, avec les dessins de Merwan Chaban, c'est celui qui fait la BD Mécanique Céleste. Et du coup, c'est très coloré, en même temps un peu pastel, et c'est très chouette à regarder et à lire. Voilà, c'est une vraie petite aventure avec des jeunes gens qui s'entendent comme chien et loup, mais qui font preuve d'une belle amitié pour résoudre toutes les énigmes de cette folle évasion. Et voilà, c'est très chouette à partir de 8 ans, une très belle petite aventure.
Ouais, décidément, cette collection, titre après titre.
Il est épais, là, celui-là.
Il est épais. Mais il est
c'est
très...
le grand bain de mètres, quoi.
C'est ça.
Le très grand bain.
Le très grand bain.
Le bassin olympique.
Voilà.
Cette saison, on va dire.
Parce qu'on est dans le thème.
Eh bien, moi aussi, j'ai un coup de cœur, à peu près pour le même âge, hein, pour les jeunes lecteurs. Ce livre s'appelle « Rendez-moi ma bonne vieille pollution ». Voilà, c'est un livre de Florence Tinard, publié dans la collection « En voiture Simone », édité par les éditions Thierry Magnier. Alors déjà, la collection s'est fait une petite beauté.
Oui, parce que je ne reconnais pas les formats.
Non, tout à fait. Ils ont changé de format, ils ont changé de couverture, de typographie, de dessinateur. Avant, c'était des collections très, très graphiques, en fait, avec des plutôt très colorés, un peu fluo.
Ouais.
On connaissait toute la série des Cousins Carlson, notamment, dans cette collection-là. Et bien là, donc, ils commencent à rééditer pas mal de titres qui ont déjà été publiés. Et puis, il y a quelques nouveautés, dont ce titre de Florence Tinard. Moi, j'aime beaucoup l'écriture de Florence Tinard.
Ça faisait longtemps. Oui,
c'est possible.
Enfin, en jeunesse, j'ai pas vu.
Et franchement, elle est toujours aussi douée. Dans cette histoire, on va suivre les aventures du jeune Habib. Habib, c'est un citadin. Un vrai, c'est-à-dire que lui, il habite à la ville, il aime la ville, il aime quand il y a des choses autour de lui, il aime quand il y a du bruit, quand il y a des gens, il y a la possibilité de sortir, et puis il aime le théâtre. Voilà, il fait du théâtre, et donc là, l'été arrive, et lui, il est trop content, parce que depuis quelques mois, il attend que ça, il attend le stage de théâtre de l'été. Ça va être un mois complet à faire du théâtre, du théâtre, du théâtre. Sauf que ses parents ont décidé d'un autre projet pour lui. Ils ont pensé que peut-être la nature, l'aventure, les Pyrénées, la montagne, ça lui ferait du bien au petit Habib qui respire des pots d'échappement à longueur de journée. Quand il apprend la nouvelle, Habib n'est pas très 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 content, on va dire ça comme ça. Lui, l'air frais, le froid, les insectes, la marche, la randonnée, autant dire que ça l'intéresse, mais pas du tout. Donc forcément, ça va faire un texte assez drôle. Forcément, le personnage d'Habib, il est très touchant. Il est très drôle aussi. Sa passion pour le théâtre va revenir quand même en scène, je vous livre pas tout le scénario, mais franchement, il va y avoir pas mal de petits rebondissements. C'est une description assez chouette d'un préadolescent, voilà, avec tout le côté un peu caricatural, forcément lié à l'âge, mais en même temps c'est tellement vrai, et puis on y est tellement avec ce personnage, il est fortement sympathique, et puis un peu, il est un peu nul, quoi, effectivement, en termes de nature, hein, c'est clair. Donc ça fait vraiment sourire. C'est vraiment bien fait. C'est un livre plaisant pour les plus jeunes, qui est à la fois de l'aventure, mais en même temps beaucoup d'humour. Et puis, il y a ce rapport à la montagne aussi, qui est très chouette. Florence Nier, elle aime beaucoup peut-être même qu'elle habite près d'une montagne. Mmh. En tout cas, ça se sent, parce qu'elle a cet amour comme ça de la marche, de la montagne, qui est présente aussi dans ce roman-là. Enfin, ça fait vraiment un très bon petit roman à partir de 9-10 ans, dans ce nouveau format de la collection En voiture Simone. Allez, on va passer aux plus grands, aux ados peut-être maintenant.
Oui.
Ça vous dit? Qu'est-ce qui commence, Méline?
Eh oui, je commence avec merveilleuse Flore Vesco.
Ah là 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 là.
J'en peux plus.
Ah là
je
là.
Ne cache plus mon amour pour cette, ce que produit cette autrice. C'est toujours merveilleux.
Il faut jamais cacher son
non,
amour.
Non,
c'est
non.
C'est toujours important.
Non, c'est vrai. Je vais pas trop parler de l'histoire parce que le meilleur de ce livre, c'est les retournements de situation. Hors de question que je gâche au lecteur et lectrice ce merveilleux moment où on comprend qu'on s'est fait balader tout le long.
Elle aime bien ça, quand même.
Elle aime bien,
pas la première fois, quand même.
Non, non, mais je vais quand même vous donner l'eau à la bouche, comme le titre de Délicieux enfants. Ça revisite le conte du petit poussé. Donc là, on se dit évidemment,
ah oui,
ça ne va pas bien se finir. Et c'est dans un environnement très sombre que Flore Vesco plante le décor. On est au milieu de la forêt, un mari et sa femme habitent avec leurs 7 enfants. La difficulté de se nourrir et de se montrer fait d'eux des personnages reclus de toute société, jusqu'au jour où la curiosité du petit dernier de la fratrie vient mettre en péril la sécurité du foyer. Et très vite, bah, on vient frapper à la porte. Et là, c'est un peu la tension dans la maison. Flore Vesco, donc, elle nous emmène à la perfection dans cette aventure pleine de mystères, tout en dénonçant toujours les thématiques qui lui sont propres, à savoir les violences faites aux femmes et aux enfants. Enfin voilà, elle crée encore une fois un conte merveilleux, plein de prouesses. Il est très sombre quand même, un peu sanglant, mais c'est génial.
Mais je trouve qu'il s'adressait pour les un petit peu plus grand par rapport à ses précédents.
Ceux d'autres, oui, ouais. À ses autres, pardon. Mais oui. Parce qu'il est vraiment très sombre. Mais par contre, il est...
Qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien.
C'est un bonheur. C'est un bonheur.
Ça. Conseillez-le vous entre vous.
Ah oui.
Le grande personne. Parce que, effectivement, vous pouvez évidemment le conseiller à vos ados. Mais entre vous, c'est tellement délicieux, comme le titre le suggère. Que...
Ah oui.
N'est-ce pas.
Tout à fait.
Véro, je sens que vous ne l'avez pas lu, vous. Hein,
non, je ne l'ai pas lu encore.
On va vous le prêter.
Ça me donne envie.
Ouais, on va vous le prêter.
Oui.
Et je vois, par contre, que vous avez un coup de cœur aussi.
Eh bien oui. Nouvelle ère de Joanne Elliott. Et on est...
Au seuil.
Au seuil. Oui, c'est marqué dessus. Donc après un long sommeil très bizarre, vraiment très bizarre, toute la population d'une ville se réveille avec un comportement très étrange. Seuls quelques individus ont échappé à ce coma et regardent effarés les endormis se réveiller complètement transformés. Donc dans les non-endormis, il y a Eddie et sa petite sœur Zora, Carla qui rentre de rêve partie, Paul qui est au chevet de sa femme qui va mourir, et Riyad qui est un jeune interne de garde à l'hôpital. Ils comprennent tout de suite, vu les propos de ceux qui se réveillent, qu'il ne faut surtout pas qu'ils s'endorment, s'ils ne veulent pas être transformés, et se bourrent de café et d'autres substances plus ou moins licites. C'est une course contre la montre pour comprendre ce qu'ils ont ce à quoi ils ont échappé, et on va savoir qu'ils ont échappé à la manipulation de quelques chercheurs en neurosciences transhumanistes. Donc c'est le thème quand même de ce roman de science-fiction qui est passionnant, qui est vraiment passionnant. On suit chaque personnage dans cette ville endormie où tous les autres personnes dorment, et on suit ces 4-5 personnages comme ça, avec des enjeux différents, des vies différentes, et qui, en voyant pour Zora et Eddie, quand leurs parents se réveillent, par exemple, ils vont avoir des discours un peu bizarres, genre il faut rejoindre tout le groupe, il faut qu'on s'aime tous les uns les autres. Enfin, c'est plutôt des discours sympas au départ, mais ça ressemble un peu... à une sorte de secte, c'est un peu bizarre. Et justement, ces transhumanistes ont imaginé mettre fin à tous les conflits manipulant le cerveau des êtres humains à distance par le sommeil. Donc il ne faut surtout pas qu'ils s'endorment, sinon ils vont tomber dans les griffes des grands chercheurs. Voilà.
Ah bah bravo. Tout à l'heure, vous nous disiez qu'il fallait qu'on s'endorme. Parce que ça avait...
Et ben non, pas là.
Et là, pas du
tout. Ah ben non, pas là.
Voilà, on va finir l'émission hyper réveillé comme ça, on va plus pouvoir dormir.
Mais c'est assez terrible hein, parce que.
Oui, ça doit être terrible.
On se dit, c'est... le sommeil pour tout le monde est important, puis ça peut être un moment sympa, et là, c'est pas possible pour eux, c'est terrible.
Puis de voir que tout le monde dort.
Oui, en plus, c'est horrible.
Ça me fatigue déjà. Mais après, Joanne Elio, il écrit très très bien, il est un vrai super auteur de science-fiction.
Science-fiction,
ouais. Spécialisé dans ce genre-là. Et c'est vraiment, il est vraiment intéressant. Et effectivement, ce roman aborde des
et
sujets.
Et c'est pareil, roman très abordable. Et moi, je trouve ça aussi très intéressant. C'est, ça se lit très vite. On rentre
dedans, on est complètement accessible pour des jeunes ados de 12-13 ans.
Oui, complètement. Complètement, c'est vraiment... ouais.
Enfin, les ados à l'ancienne, quoi. Pas, le, pas les young adultes, les 12-14 ans, quoi, on va dire.
Les ados.
Les vieux ados. Non, c'est que c'était pas
non.
Ça.
Non, non.
Bon, allez, on va parler aux jeunes ados maintenant, plutôt aux young adultes. Moi, j'ai un coup de cœur aussi, c'est un documentaire presque, ou une BD, ou un roman graphique, enfin, on peut le nommer comme on veut, ça s'appelle How to Love. Le guide universel des sentiments et relations. Et c'est fait par un auteur américain qui s'appelle Alex Norris et publié chez Saltimbanque. Alors ce livre, c'est un petit ovni littéraire qui est drôle, qui est très ludique, qui est émouvant à certains moments, qui est pédagogique aussi hein, à d'autres moments. Voilà, c'est pour ça que c'est entre le documentaire, le roman, la bande dessinée. En tout cas, moi, il m'a semblé que c'était un livre quand même, qui était assez essentiel. En gros, ce livre, il nous parle d'amour. Il nous parle de qu'est-ce qui nous arrive quand on tombe amoureux ou quand on veut tomber amoureux ou quand quelqu'un est amoureux de nous. Enfin, c'est tous les sentiments de l'amour qu'on va percevoir ou qu'on espère percevoir. Qu'est-ce qui se passe quand on aime quelqu'un du même sexe que nous ou bien de l'environnement. Enfin, toutes les questions en fait, qu'on se pose de manière générale un peu dans la vie par rapport à l'amour. Eh bien, Alex Norris va y répondre. Pas d'une manière, paternaliste qui nous apprend la vie, en fait, non. Non, il suggère des possibilités et il ouvre beaucoup de portes. Et c'est là où j'ai trouvé que le livre était vraiment très intéressant. C'est que c'est un livre qui, je pense, quand il est lu par des ados, ouvre des portes, des possibles. Ces portes que peut-être les parents n'ouvriront pas, peut-être que les profs n'ouvriront pas, peut-être même que les copains ne les ouvriront pas. En tout cas, ce livre, il permet de les ouvrir. C'est-à-dire qu'il rend possible plein de chemins différents. Et c'est là où j'ai trouvé qu'avec ce petit dessin un peu léger, un peu simple, avant de le lire, quand on feuillette, on se dit, oui, bon, ça doit être un peu sympa, léger. Et ben non, ça aborde plein de sujets vraiment forts, et ça les aborde d'une manière très intelligente, justement parce que ça laisse ouvert beaucoup de possibilités, et je pense que le lecteur qui est vraiment dans la décision, qui sait pas trop quoi faire avec cet amour dont on lui bassine un peu les oreilles, et ben à la lecture de ce livre-là, il va être plutôt rassuré en se disant, oui, il y a plein de façons différentes d'aimer, d'être aimé, et finalement, la mienne, je vais la choisirai peut-être plus tard, ou en tout cas, j'ai pas un chemin à suivre qui serait celui que tout le monde doit suivre. Et ça, c'est plutôt très, très rassurant. Donc, c'est un livre extrêmement pop aussi par ses couleurs. Voilà. Il y a aussi une vraie tolérance queer. Hein. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des sentiments amoureux, homosexuels. On parle des trans, on parle du genre, on parle de plein de sujets comme ça, de manière très libre, hein, non plus militante. Enfin, voilà, je trouve que c'est un livre extrêmement intelligent et très bien fait. Donc, à conseiller vraiment à tout le monde. Ça s'appelle How to Love d'Alex Norris, le guide universel des sentiments et relations, et c'est publié chez Saltimbanque. Oh, l'heure tourne, on est déjà à la fin. Il nous reste les bandes dessinées. Méline, vous avez deux bandes dessinées à nous présenter rapidement.
Et je me dépêche.
Allez, on y va.
Oh my god. Je commence avec une super adaptation du roman de Julia Thévenot, Bord de terre, par Timothée.
Ah, c'était bien.
Alors, c'est Le Mans ou c'est Le Mans?
Le Mans, moi j'ai dit.
Bon, on va dire Le Mans.
Mais je sais pas.
Alors qu'ils sont en vacances en bord de mer, deux frères et sœurs ainsi que leur chien se retrouvent aspirés par le ciel et tombent dans le sombre village de bord de terre. Alors qu'ils découvrent cette ville qui semble connaître une espèce de dictature effroyable, leurs souvenirs s'effacent et les deux jeunes gens prennent des chemins séparés. L'un trouvant sa place dans une sorte de résistance, l'autre est engagé auprès des grands seigneurs de la ville, des espèces de grands châtelains qui sont pêcheurs de cailloux et ont... comprend pourquoi au fil du récit. Enfin voilà, ça fait un peu réfléchir tout ça. Et puis il y a cette interdiction étrange de chanter. Donc voilà, donc c'est un premier tome, donc on entre vraiment dans l'histoire. Et c'est très romanesque et en plus de ça, visuellement c'est hyper beau. Timothée Le Mans, il construit un monde un peu flou comme ça. Tout en... Bah oui, mais en fait, à la radio, on ne voit pas. Mais...
Bah, c'est ah, ça.
Oui. Mais, mais ça fait comme... on est comme dans un rêve, un peu. Mmh. Et on est embarqué à la perfection dans les enjeux, en fait, de cette ville, des personnages aussi. Et voilà, c'est vraiment génial. C'est Bord de terre de Timothée Le Mans chez Sarbacane.
Et c'est marrant parce que c'était extrêmement loin de tout l'imaginaire que j'avais dans ma tête quand j'ai lu le roman de Julia Thévenot.
Ah oui, ça, c'est marrant.
Mais ça fonctionne quand même.
Et ça fonctionne.
Je suis très content d'avoir découvert un autre univers qui n'était pas celui que j'avais vraiment en tête. Oui. Donc voilà, donc bravo Timothée Le Mans.
Ah ouais, c'est fort. Et cette fois-ci, un manga. Il y a Rue de Sèvres qui vient de lancer sa collection de mangas jeunesse qui s'appelle Le Renard Doré. À sa tête, c'est Michael Brun.
Ah oui, c'est ça.
On en a parlé la dernière émission.
Et j'ai oublié le deuxième prénom de... Oupsie. Bon,
avec un acolyte.
Voilà, c'est ça. Ils sont deux, ils sont très doués. Et là, je vais parler de La Forêt Magique d'Oshigahara, qui sera une petite série sur 5 tomes, qui est vraiment géniale. En fait, on est dans un petit village tranquille. Et au milieu de ce village, il y a la forêt foisonnante, pleine de mystères, époustouflante aussi. En fait, les animaux prennent presque forme humaine et les esprits du moindre petit caillou cherchent à se faire une place aux côtés du jeune Soichi, qui est un petit garçon plein de douceur qui essaie tant bien que mal de faire cohabiter un peu tout ce beau monde d'esprits, d'animaux, d'habitants de la forêt dans un havre de paix et dans le respect de la nature. Donc voilà, c'est très beau, c'est très doux. On a plein d'air frais et je trouve que les personnages sont tous empathiques, émouvants, tendres. Voilà, pour moi, c'est un super départ pour cette collection. Il y a 3 titres actuellement.
Il y a la mamie qui est très chouette aussi. Moi, j'ai adoré la mamie. Ouais.
Et le voyage d'Ourselune, chose comme ça.
Très beau.
Et tout est bien.
Les 3 sont très bien.
Ouais,
c'est un très beau lancement de collection.
Un super début. C'est très prometteur.
Eh bien, merci beaucoup, Méline.
Ben non, merci à vous.
Merci Véro. Merci Philippe, comme d'habitude, pour ce son impeccable. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez évidemment partager l'émission. N'hésitez pas sur les réseaux. Parlez-en à tout le monde. Nous, on sera contents. Voilà. Ça ne nous apportera rien du tout. Hein. On ne sera pas plus riches. Mais par contre, on sera très contents. Donc voilà. Ça nous faisait beaucoup plaisir de parler de plein de choses comme ça. Comme d'habitude, on va terminer en musique. Encore une fois avec les 3 éléphants et j'ai eu un petit coup de cœur, j'avoue, je l'ai découvert. Je sais que Méline, vous êtes très très fan de cet artiste.
Oh.
C'est un garçon qui s'appelle Tiff.
Oh là là.
qui est un rappeur franco-algérien.
Ah oui.
Qui a un univers musical vraiment unique où il mélange le rap avec le shaabi. Shaabi, c'est une musique traditionnelle qui nous vient plutôt arabo-andalouse, on va dire.
Ouais.
Et il utilise cette musique-là dans son rap avec des paroles très contemporaines où là, il parle vraiment de lui et de ses émotions. Et ça fait vraiment un mélange qui est très, très chouette. Donc, je pense qu'il a sorti un premier album et puis là, il a sorti un album version live, en fait, de ses morceaux qui est trop, trop beau.
C'est trop beau.
Donc, en live, je pense que ça va vraiment être très, très chouette. Donc, je vous propose de terminer avec Tiff, avec le titre Inata, moi que j'aime beaucoup.
Ah, oh, c'est beau.
Voilà, je savais que vous faisiez plaisir.
Ah, c'est gentil.
En tout cas, merci beaucoup pour nous écouter. J'espère que vous allez beaucoup lire encore dans ce début d'été. On y est presque. Allez, ouais, on tient bien. Là, il a commencé à faire beau. Non, il refait pas beau, c'est pas vrai. Mais on a eu un peu de beau quand même.
Il fait beau dans nos cœurs.
Voilà, oui. C'est ça qui est important.
C'est
allez,
beau.
Il va faire beau dans la musique avec Inata. À bientôt.
Petite voix qui s'envole, va vers le point rouge sur la map. Tellement de chétanas qui s'abonnent, j'ai dû dire ciao à madame. J'ai fini de balayer la zone et je ne trouve pas ma Inata. J'appelle cette fille la mia mort, y'en a c'est comme océan. 1h du mat, m'attends dans le sortilège. Raptage des passeports inertes. La vie c'est sortilège, cerveau en ébullition, le cœur qui bat. J'ai même plus l'heure qu'il est. Quand je consomme la liqueur, claqueur l'hiverse. Orchestre à chaque fois que je fume de l'orchidée. Jusqu'au corbillard, je pense qu'à orbiter. Personne paye pour le flow to fig. I still have no fuck to give. Inata parle pas chinois, je peux la comprendre sans sous-titres. Personne paye pour le flow to fig. I still have no fuck to give. Inata parle pas chinois.
je peux la comprendre sans sous-titre.
J'entends ta petite voix qui s'affole, va vers le point rouge sur la map. Tellement de chitana qui s'abonne, j'ai dû dire ciao madame. J'ai fini de balayer la zone et je ne trouve pas ma inata. J'appelle cette fille la mia mort, y'en a aussi commencé un nom. Elle m'appelle, elle me dit je me sens si seul. Pourquoi tu me postes pas? J't'ai vu sur Insta avec une poste botte. Je sais que ton sourire sert de cache bizarre. Si je pars me ghoste pas, ou je suis triste à cause de toi. D'un côté je dors pas, j'ai la mif en tête. Mes potes m'appellent, pas trap dans discothèque. Je pense à arrêter 5000 vis au père. Je parle d'arrêter la fume avec un spliff au bec. J'ai fait confiance, je regrette amèrement. Maintenant je suis busy à faire l'or. Je reste pas accroché à mes remords. Au bord de la plage, j'ai retard mer l'or. Personne pipe on flow to fake. I still have no fuck to give. Inata parle pas chinois, je peux la comprendre sans sous-titre. Personne pipe on flow to fake. I still have no fuck to give. Inata parle pas chinois, je peux la comprendre sans sous-titre. J'entends ta petite voix qui s'affole, va vers le point rouge sur la map. Tellement de chitana qui s'abonne, j'ai dû dire ciao à madame. J'ai fini de balayer la zone et je ne trouve pas ma inata. J'appelle cette fille la mia. C'est cool.